Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, de Nick Knopfler.
Oui, une ville, chacun ma montre, une ville libérée n'est pas encore une cité indépendante, polis eleutera kai autonomos. On a vu que si dès l'été 287, et non pas seulement 286, comme le pensait l'éditeur fort méritant du beau décret pour Callias de Sphettos, les Athéniens avaient pu chasser la garnison macédonienne installée sur le rempart au Mouséion. Ils avaient aussitôt dû subir un nouveau siège qui s'annonçait très long de la part du roi Démétrios, revenu en toute hâte, vous vous souvenez, du Péloponnèse, où on ne l'attendait pas. Certes, le siège avait pu être levé assez tôt, sans qu'on sache exactement quelle a été la durée, grâce à l'intervention de l'envoyé spécial, on peut dire, du roi Ptolémée d'Égypte, appuyé sur place par l'Athénien Callias, qui était lui-même un officier au service du souverain Lagide. Mais la paix, Eirénée, conclue entre les deux rois, n'était en réalité qu'un armistice, qui permettait à Démétrios de s'embarquer sans plus tarder pour sa grande expédition asianique, tandis qu'elle donnait aux Athéniens le moyen de reconstituer leurs forces. Il était hors de question, en effet, que ceux-ci puissent se satisfaire de la situation qui leur était faite au terme de l'accord. Comment accepter que la plus grande partie du territoire restât sous le contrôle indirect d'un souverain qui était très généralement haï, si lointain qu'il fût désormais, que l'un des principaux sanctuaires de l'Attique, Eleusis, fut inaccessible aux pèlerins, et en tout cas pour la célébration des mystères, des grands mystères en l'honneur des deux déesses, qu'il fut impossible de faire transiter les marchandises à l'exportation et surtout à l'importation par ce poumon de la cité d'Athènes, qu'est le Pirée avec son emporion, ou comme le disait Périclès dans la fameuse oraison funèbre rapportée par Thucydide, tous les produits de la terre arrivent pour être à disposition des Athéniens. De toute évidence, il ne pouvait y avoir de stabilité dans une situation aussi dommageable pour la vie économique et sociale comme pour l'activité politique et religieuse de l'État athénien. Une cité brisée en deux, voire en plusieurs morceaux. Encore fallait-il trouver les ressources nécessaires à la reconquête de l'unité, condition sine qua non du retour à la prospérité, euémeria. Livrés à eux-mêmes, les Athéniens n'auraient pas pu, sans doute, faire grand-chose face à l'occupant macédonien solidement installé non seulement dans le port, mais dans toutes les forteresses, Eleusis, probablement Panacton, Philée, dans le Parnèse, Ramnonte, dans le nord-est, puis le Sounion au sud. La chance d'Athènes, c'est que le roi Démétrios avait beaucoup d'ennemis. Cela n'était pas nouveau, mais ce qu'il était en revanche, c'est que désormais les Athéniens allaient pouvoir profiter de la marge de manœuvre dont ils disposaient pour envoyer des députations et lancer des appels auprès de tous les souverains hellénistiques, ou peu s'en faut. Jusque-là, pendant toute la période de domination, donc entre 294 et 287, la chose leur fut absolument interdite. Certes, on a parfois cru devoir admettre des exceptions ou des entorses à cette règle. Par exemple, dans le décret connu depuis longtemps pour Phaedros, donc le frère de Callias, Phaedros de Sphettos, avant même qu'il ne soit fait état de l'action menée par ce personnage en 287, le rassemblement notamment du blé, il est question, vous le voyez, d'une ambassade faite proston basileaton presbyteron, Ptolémaion, donc l'aîné, c'est-à-dire Ptolémée I, avant la mention de l'archonta de Kimon pour 288-7. Ne serait-ce pas la preuve que cette ambassade eut lieu encore avant la libération de la ville de l'Astu. En fait, comme souvent dans ces grands décrets récapitulatifs de toute une carrière enfin, de vie, l'ordre n'est pas strictement chronologique. Les faits sont groupés par genre, kata ethnos, on peut dire. Les ambassades forment une catégorie à part. De même, dans la biographie si intéressante philosophe et homme d'État Ménédème d'Érétrie, chez Diogène Laërce, 2, les ambassades, toutes les presbéiailles sont regroupées en un chapitre. On a d'abord des ambassades Prosptolémaïon, Caï Lusimachon, dans ces années-là, et puis seulement celles faites aussi, malgré tout, avant, auprès de Démétrios, ou mène à la Caï Pros Démétrion, on le voit. Or, il ne fait pas de doute que les premières sont postérieures aux secondes, en l'occurrence, dans ce texte, parce que l'auteur a regroupé de façon logique, mais non chronologique, les choses. C'est seulement, en fait, dans l'occurrence, après 285, que les Érétriens purent songer à députer, comme les Athéniens, leur plus illustre concitoyen, vers les rois qui avaient activement contribué à la défaite du Poliorcète. Pour Athènes, donc, c'est entre 287 et 283 que cette activité diplomatique fut la plus intense, à la fois parce que cela correspond à la période où, au lendemain même de la libération de la ville, les besoins les plus vitaux, ceux de l'approvisionnement en céréales, devaient trouver une solution rapide, mais aussi parce que la conjoncture politique se modifia progressivement à partir de 285 dans un sens qui n'était pas nécessairement favorable aux intérêts athéniens. La chose est particulièrement nette dans le cas de Lysimaque, ce puissant monarque qui domine les deux rives de l'Hellespont, Thrace asiatique. En effet, ce roi, qui était un des principaux adversaires de Démétrios, avait les meilleures raisons alors de soutenir la cause des Athéniens. Il y est d'ailleurs vivement encouragé par son courtisan athénien, le poète Philippides de Képhalé, pour lequel on a un beau décret étudié en séminaire. Et ce document nous a laissé un aperçu des générosités consenties par Lysimaque après que le peuple d'Athènes, dit le décret, ligne 31, vous ne l'avez pas sous les yeux, après que le peuple d'Athènes eut recouvré la liberté. Kai komissamenou, ce verbe qui revient constamment, tout demou ten eleuterian. Ce roi fut sollicité aussi par plusieurs ambassades, par deux fois le patriote Démocharès de Leuconoé se rendit auprès de lui et en obtint, on voit qu'il fait ici dans cette proposition de décret après 286, pros Lusimachon, il fait une ambassade auprès de Lysimaque, il en rapporte des sommes importantes, 30 puis 100 talents d'argent, je rappelle donc que ça doit faire à peu près 3000 kilos de métal précieux, le talent quelques 26 kilos d'argent. Cela valut à plusieurs, d'ailleurs, ambassadeurs ou courtisans de Lysimaque d'être honorés à Athènes. On a les noms de plusieurs d'entre eux. Il y a de bonnes relations. Lysimaque lui-même ne fut pas en reste, d'ailleurs, puisque c'est très probablement alors qu'il obtint la statue que put voir encore, selon toute apparence, Pausanias, au livre 1, chapitre 9, qui fait observer que si les Athéniens l'honorèrent ainsi, ce n'est pas tant, dit-il, à cause de la bienveillance à son égard, œinoïa, qu'en raison de l'utilité de la chose, dans l'immédiat, eista paronta cresimon. De fait, la cote d'amour de et pour Lysimaque ne fut pas constante. Il y eut une nette tendance au refroidissement, quand ce souverain, d'ailleurs lui-même empêtré dans d'abominables affaires familiales, montra de la réticence à restituer aux Athéniens leurs îles si importantes de Lemnos et d'Imbros. C'est que, désormais, au fond, Lysimaque n'avait plus grand-chose à craindre de son rival Démétrios, qui était dès alors fait prisonnier en Asie mineure du fait du roi Séleucos de Syrie. Ce qui est sûr, c'est que les Athéniens cessèrent bientôt de solliciter ce Lysimaque, et en 281, la page fut définitivement tournée avec la mort sur le champ de bataille de Couroupédion, en Asie mineure, de ce vieux compagnon d'Alexandre qu'avait été Lysimaque. Les relations d'Athènes avec les royaumes voisins de celui de Lysimaque furent, somme toute, plus cordiales, sinon plus rentables. Mais là aussi, il fallut compter avec les retournements de la fortune, les accidents de la toute-puissante Tuquet. C'est ainsi que le fameux roi d'Épire, Pyrrhos, montra beaucoup d'empressement à l'égard d'Athènes, y venant dès 287, au lendemain du siège, pour faire un sacrifice sur l'Acropole, c'est ce que nous rapporte Plutarque. Rien n'indique en revanche qu'il y ait eu une statue. Mais ce prince, à l'humeur un peu fantasque, se tourna ensuite, dès la fin des années 280, vers l'Italie, y remportant, on le sait, plusieurs victoires à la Pyrrhus, bien entendu. Même après son retour en Épire, en 275, jusqu'à sa mort en 272, il ne se soucia plus directement d'Athènes, ce qui, du reste, valait peut-être mieux pour elle. Très important, en revanche, et en tout cas d'un grand intérêt pour les historiens, ont été les rapports noués ou renoués avec des basileis, des rois un peu marginaux, si l'on veut, le roi Odoléon de Thrace et le roi Spartacos du Bosphore, qui nous sont connus l'un et l'autre par le biais de deux décrets honorifiques pratiquement contemporains, datant effectivement l'un et l'autre du même archonte Diotimos, 285-284. Dans le cas de Spartacos, vous vous souvenez qu'on avait lu ce document séminaire, il s'agissait surtout de raviver des contacts déjà anciens avec une dynastie, celle des Spartocides précisément, qui remontait au moins au milieu du IVe siècle, dès l'époque de Démosthène. On voit que les ancêtres du roi honoré ici avaient accordé aux Athéniens d'importants privilèges commerciaux qui rendaient un peu moins aléatoire l'importation des céréales vers le Pirée. Il y a un décret attique très, très connu que vous pouvez voir dans le recueil de Pouillou, le choix numéro 9, qui honore justement les trois fils du roi du Bosphore. C'est un témoignage éloquent. Après 287, Athènes, alors, s'est soucié de réveiller les bonnes dispositions des rois du Bosphore, en allant jusqu'à conclure avec Spartacos une espèce de traité, à vrai dire un traité un peu théorique, on l'a vu. Certes, ce roi ayant manifesté, dit le décret, Spartacos, etc., à l'arrivée d'une ambassade d'Athènes, sa joie en apprenant que le peuple avait récupéré la ville, akousas oti odemos kekomistai, toujours le verbe komizo, to astu, Athènes put obtenir de lui, à titre gracieux, une quantité non négligeable de grains, 15 000 médines, à peu près 300 000 kilos de blé. Mais elle espérait sans doute davantage. Non, certes, une intervention militaire des Bosporitains, qui avaient d'autres chasses à fouetter, eux qui étaient aux confins du pays des Scythes, voisins redoutables. Mais du moins, ils espéraient un peu d'argent pour continuer la lutte par les armes ou par la négociation en vue de la libération totale de l'Attique. Sur ce point, Spartacos fit apparemment plus de promesses que de dons réels. Il mourut d'ailleurs dès 284 ou 283, après 20 ans de règne. Des deux statues qui lui avaient été accordées par les Athéniens, l'une devait venir compléter sur l'agora la série des eikones, des portraits de bronze précédemment octroyés à ses ancêtres, Progonoi. On peut penser qu'elle fut exécutée, cette statue, de justesse peut-être, avant la mort du roi, en 284. Mais en revanche, il est bien douteux que la seconde, Hétérane, vous voyez ici, Kai Hétérane, on en avait discuté, cette seconde ait jamais vu le jour. On a admis le plus souvent, avec une excessive confiance, qu'elle devait se dresser sur l'acropole, en restituant ente ou en acropolei, restitution qui ici a été écartée, mais non remplacée. En réalité, c'est dans l'Emporion du Pirée, je pense, entoi emporioi, que les Athéniens prévoyaient d'ajouter un jour prochain l'effigie de Spartacos à celle que ses ancêtres, là aussi, y avaient, un monument pour les Spartocides dans l'Emporion. Mais cela, ils ne pourraient le faire, bien entendu, que le jour où ils remettraient la main sur leur port. Or, l'événement a supposé qu'il y ait eu lieu, comme personnellement je le pense, avec d'autres, et on en discutera, ne se produisit au mieux cet événement qu'en 281 ou 280. Et il est donc bien improbable qu'à cette date, les Athéniens aient mis dans leur priorité d'honorer un prince défunt qui, en fin de compte, n'avait que médiocrement contribué à la reconstitution de la cité. En fait, l'autre basileuse, Odoléon, le décret pour le roi Odoléon, contemporain, en fait il date exactement de l'été 284, paraît avoir davantage mérité leur reconnaissance. Assurément, Odoléon, fils de Patraios, roi des Péoniens, qui était un important peuple thrace installé au nord-est de la Macédoine, ne leur donna, on le voit, ne leur donna que 7500, Medimnus, la ligne 25 suivante, Medimnus, Heptakiskilius, donc, si l'on veut, la moitié moins que le très riche Spartacos qui régnait sur des terres à blé considérables. Encore qu'on nous précise que les Médimnes du roi Odoléon étaient des talons thraces, Macédonias. Difficile de savoir ce que ça représentait en plus ou en moins par rapport à l'étalon attique. En revanche, cet Odoléon ne se contenta pas, lui, de se réjouir diplomatiquement de la bonne nouvelle de la récupération de l'Astu de la ville en 287. Il promettait de rendre d'autres services en œuvrant plus concrètement au retour du Pirée dans le giron de la cité. C'est aux lignes 32, vous le voyez ici, il est dit... Il va rendre des services par exestai creas synergon, belle synergie, hein, esteten tu pegraeos comiden, le retour du Pirée et la liberté de la cité. Une telle déclaration d'intention, certes, fut loin de laisser les Athéniens indifférents. Tant la chose, cette récupération, leur tenait à cœur. Aussi, lui accordèrent-ils, sur l'agora, une statue vraiment digne d'un roi. Stesai d'autou, kai eikona kalken ef ipu en agora, une statue efipos, statue donc équestre. Or, en fait, mieux valait une statue équestre individuelle que deux simples ajouts, dont un au surplus très aléatoire, à des monuments dynastiques qui étaient déjà en place, comme dans le cas du prince marchand Spartacos. Le seul problème, c'est que l'on ignore ce que Odoléon put faire réellement pour la liberté d'Athènes, coincé qu'il était dans son royaume continental, sans accès direct à la mer Égée, et en but d'ailleurs aux ambitions de Lysimaque, après l'élimination de Démétrios, des successeurs éphémères de Démétrios en Macédoine, un certain Ptolémée Keraunos à partir de 282, et sans parler de ce qu'il lui advint, à supposer d'ailleurs qu'il fût encore vivant, on ne le sait même pas, en 280, quand l'invasion des Galates, des Gaulois venant du centre de l'Europe, a balayé tout sur son passage, hein, Thrace, Macédoine, Illyrie, il ne restait rien, c'était un champ de ruines. Donc vous voyez que c'était un allié qui ne fut pas peut-être très, quelles qu'étaient ses bonnes intentions, très efficace. Ces monarques donc étaient des alliés, en fin de compte, un peu fragiles pour la cité d'Athènes, dans cette phase de reconstruction, on peut dire, politique. Elle bénéficiait cependant, heureusement, cette cité, d'un appui plus constant de la part d'un roi qui avait l'avantage d'être à la fois assez puissant pour être utile et trop éloigné pour être réellement dangereux. C'est évidemment Ptolémée d'Égypte. À cet égard, le décret de Callias est venu confirmer et préciser ce que l'on pouvait déjà subodorer du rôle joué par les Lagides justement dans la libération de 287. Un décret attique, bien connu depuis longtemps, voté dans l'été 286, les Archontas de Dioclès. On aura en effet un certain Zénon, c'est pas plus de son identité, qui avait été placé par le roi Ptolémée, Katestékos, Hypoto Basileos, Epitone Afractone. Les Afractoi, ce sont les navires non pontés. Les navires non pontés, donc une flottille de vaisseaux utilisables surtout pour le transport des céréales. Et ce Zénon s'occupe avec zèle d'une opération en rapport avec l'approvisionnement, Epimeleitai, les lignes 14 et suivantes, d'une opération en rapport avec l'approvisionnement. L'éditeur du décret, du grand décret pour Callias, l'Américain donc chien, a fait grand cas de ce document dans son commentaire, et il a eu raison. Son seul tort a été de vouloir faire coïncider cette opération frumentaire, puisqu'il est bien question de blé, vous voyez, situ ici, juste après la lacune, avec celle dont il est question, on s'en souvient peut-être, dans le nouveau décret, comme dans l'ancien, pour Phaedros de Sphétos, c'est-à-dire la syncomidae tout situ. Syncomidae, c'est le transport en ville, sous contrôle, du blé récolté en toute hâte dans le territoire, dans la campagne. Schier, en effet, a proposé de restituer, au lieu de ce que vous avez sous les yeux, de restituer Epimeleitai, Tes, Syncomides, Tussitu, pour le peuple. Donc, ici, également, Syncomides, sur la base du décret pour Callias. Et le problème, c'est que la restitution admise, que vous avez sous les yeux, est la seule possible. Est la seule possible. Habich l'a défendu très clairement dès 1979 pour des raisons de style. Il faut un caï ici, et si vous avez un caï, vous ne pouvez pas écrire syncomides. C'est donc nécessairement comides. Hein. Ça, la nuance paraît de faible importance, mais en réalité, elle interdit donc absolument d'identifier les deux opérations. Zénon a combattu lui aussi pour que les céréales fussent transportées plus sûrement, ou le plus sûrement, oppose, on le voit, an diakomizetai asphalestata, asphalestata, synagonizomenos, il contribue, il lutte, et à cet égard, il agit comme les deux frères athéniens. Mais son mérite fut d'assurer le transport du blé, d'un blé égyptien, par la mer. Donc une opération tout à fait distincte en direction dans le port de l'Attique, puisque le Pirée lui-même était inaccessible, sauf cas particulier, le cas de Sostratos, le député de Ptolémée, qui entre au Pirée pour la négociation avec Démétrios. Donc, il faut absolument distinguer une syncomidae, une récolte du blé dans la campagne pour la mettre en sûreté, ce grain à Athènes, et la comidae, qui est l'apport d'un blé extérieur, et notamment d'un blé ici égyptien. Pour ce qui est des ambassades envoyées à Ptolémée l'Ancien, Ptolémée donc Sauter, Ptolémée I, aussitôt après 287, on avait deux témoignages connus de longue date pour cette activité diplomatique. L'un, conservé par une inscription, c'est, on l'a vu, le décret pour Phaedros, avec la mention citée il y a un instant. L'autre, transmis par la littérature, c'est dans, je crois que j'ai le texte ici, dans la fameuse, justement, proposition de décret pour Démocarès. C'est un texte qui nous est parvenu par le biais d'une source littéraire, le pseudo Plutarque. On voit en effet qu'il y a eu non seulement des ambassades vers Lysimaque, mais aussi Presbeian, pros Ptolémaïon, eis Aegypton. Démocarès fait la proposition, Grapsanti, mais ça n'est pas lui qui fait l'ambassade. Il était peut-être trop âgé. D'autres partent pour l'Égypte et en ramènent des sommes importantes au bénéfice du peuple. Mais c'est du décret pour Callias, tout de même, que l'on tient depuis 1978 plusieurs informations de grand intérêt sur l'étroitesse des liens noués alors entre Athènes et le roi d'Égypte. Je ne reviens pas sur le rôle décisif que la flotte, puis la diplomatie et l'argent ptolémaïque jouèrent en 287-286, on a vu cela la semaine dernière. Après la libération, une fois la paix conclue, Callias s'en retourna en Égypte, où il put venir en aide aux ambassadeurs qui, venant d'Athènes par Rhodes et l'île de Chypre, débarquaient à Alexandrie. Par exemple, justement, cette ambassade proposée par Démocarès qui s'est réalisée, Callias était là comme intermédiaire entre ses concitoyens députés et le roi lui-même. Mais un événement eut bientôt pour effet que Callias fut amené à rendre de nouveau à ses compatriotes de très signalés services. Car le décret pour Callias indique, ligne 43-44, que à un certain moment, Ptolémée le Jeune, succéda à Ptolémée l'Ancien. Ptolémée tout néotérou, paralabontos ten basileian. Ce changement de règne n'est pas daté dans notre décret par la mention d'un archonte. On sait toutefois, de façon très sûre, encore qu'un peu imprécise, qu'il s'opéra dans l'hiver 283-282, fin décembre, début l'année 282. Dès 285, il est vrai, Ptolémée II, Ptolémée Philadelphe, avait été associé par Ptolémée Sauter. Il ne fait pas de doute, cependant, l'expression utilisée ici, paralabontos, ne peut se rapporter qu'à la succession proprement dite, donc à l'événement du début de 182. Or, cette date est importante, dans la mesure où l'on peut inférer du libellé de l'inscription que la situation d'Athènes, à ce moment-là, était encore tout sauf brillante. En revanche, le décret a apporté une nouvelle preuve qu'Athènes était alors parfaitement indépendante. Il y a bien un État athénien indépendant. La chose doit être soulignée, puisque en 1979 encore, donc au moment où le décret de Callias commence à être connu par les historiens, Édouard Ville, l'excellent, on peut dire admirable, auteur de l'histoire politique du monde hellénistique, paru en seconde édition justement 1979, aujourd'hui un livre de poche, croyait encore, dans le sillage de quelques épigraphistes, en l'occurrence un peu égarés, que la ville d'Athènes était retombée alors au pouvoir des Macédoniens, après 284. Donc, le décret de Callias a réglé, une fois pour toutes, ce prétendu retour à la suggestion à la fin des années 280. Callias, donc, était revenu à Athènes, dans ces années-là, la montée sur le trône de Ptolémée II, pour y séjourner quelque temps. On nous dit épidémessas, je l'ai perdu, mais on devrait le retrouver. Attendez. oui, c'est l'année 45. Hein. Épidémessas, eisto, astu, callias, etc. C'est très clair. Notons au passage ce verbe épidémein, faire un séjour dans sa patrie. Alors, j'avais proposé de restituer une forme de ce verbe aux lignes 80 exempli gratia, mais le restituer avec une négation, là. Vous savez, lorsqu'il ne séjourna pas, il se mit à l'abri de tout reproche d'avoir pu collaborer avec le régime antérieur. Mais c'est le même verbe qui est, on peut dire, technique. Alors, on aurait voulu savoir la raison de ce séjour de Callias, de nouveau séjour à Athènes, mais le décret est muet là-dessus, comme il est très discret aussi sur les causes précises qui amènent le collège des stratèges, vous voyez, ton stratégon, calesanton, auton, l'ayant appelé, l'ayant convoqué, on peut dire, ces stratèges qui constituent le gouvernement, le pouvoir civil et militaire, a convoqué leur illustre concitoyen de passage pour lui révéler l'état présent des affaires de la cité. Emphanizonton ta katatén polin, en ois en. Dans l'état où elles étaient, une sorte d'euphémisme, en fait, pour dire qu'elles étaient très préoccupantes, sinon même catastrophiques. De fait, l'on devine qu'une des causes était la difficulté sans doute accrue pour Athènes de s'approvisionner en blé. Détérioration à mettre en relation, me semble-t-il, avec le fait que, quand c'est hiver 283-2, justement, au moment de la succession des deux Ptolémées, cet hiver qui était le cinquième, depuis qu'Athènes était coupée de son port, toujours aux mains des Macédoniens à cette date, et en dépit du fait que le roi Démétrios lui-même était décédé à ce moment-là, les Athéniens, disais-je, ne pouvaient plus compter sur aucun de leurs fournisseurs, entre guillemets, habituels. Lysimaque s'était détourné de la Grèce, Spartacos était décédé en son royaume du Bosphore, Odoléon était perdu quelque part dans les forêts de la Bulgarie. Donc, il ne restait plus que le roi d'Égypte, ultime recours. Or, justement, la nouvelle qui venait de se propager à travers tout le monde méditerranéen, qu'il y avait un nouveau roi à Alexandrie, laissait espérer que ce plus jeune monarque allait, en guise, si l'on veut, de cadeaux de joyeux avènements, se montrer plus généreux, peut-être, que le vieux Ptolémée, un peu rabougri, sur son trône depuis 40 ans, depuis la mort d'Alexandre, disons en fait, sinon d'emblée en droit. Les magistrats athéniens se tournent donc vers Callias, arrivé à point nommé, mais peut-être pour des raisons purement personnel et familial. Il fallait bien que Callias vint de temps en temps dire bonjour à son frère Phaedros, à son fils, on le connaît, ses neveux, sans parler éventuellement de son épouse, dont on ignore tout jusqu'à son nom, ce qui assurément est une preuve de bonne conduite. On demande à Callias de repartir d'Ardar pour l'Égypte, afin, dit le décret, qu'il y aille et le plus rapidement possible, tentakisten, une aide, quelle qu'elle soit, l'expression me paraît quand même remarquable, boetheiatis, en argent, en blé, peut-être surtout en argent, on se croirait en 2010, pour la ville d'Athènes, eisto astu. On ne dit même pas, il faut le noter, eisten polyne, pour la cité, car Athènes est toujours à cette date un moignon de cité, une police gravement amputée. L'excellent Callias obtempère, s'embarque immédiatement, non pour l'Égypte, mais le décret le dit, eis Cupron, car cet officier Lagide savait certainement, était bien informé, que le roi s'était déplacé vers Chypre au début de son règne, peut-être pour raffermir la fidélité des cités et des peuples à la dynastie des Lagides. C'est donc en une ville maritime non spécifiée de la côte sud, probablement une ville comme Salamine de Chypre ou Paphos, que Callias a une entrevue avec le roi. En tukon, verbe technique, te basilei, pour le roi, en tunkano. Qu'il parvint, je crois qu'on a de nouveau le texte, oui, ici, en tukon, te keito basilei, il parle des affaires de la cité, et il parvient à le convaincre d'aider les Athéniens par le don de 50 talents, d'une fois, c'est quand même beaucoup, et l'envoi de 20 000 boisseaux de grains. L'inscription fournit à ce propos une information de grand intérêt. C'est dans l'île de Délos, que ces boisseaux de blé furent mesurés. Paramétrétésan ek délou. Et que le grain fut remis aux envoyés d'Athènes. Certes, l'éditeur du décret de Callias en a tiré une conclusion historique un peu excessive, puisqu'il y a vu la preuve que dès cette époque, l'île de Délos était devenue pour les Ptolémées un centre de redistribution de première grandeur comparable à celui de Rhodes. Sans nier l'importance du tout régionale de l'Emporion délien, la spécialiste de l'histoire de Délos à l'époque de l'indépendance, Madame Claude Vial, dès 1984, a montré que cette concentration de blé égyptien dans l'île répondait d'abord probablement à des besoins plus stratégiques que purement économiques. Il s'agissait de pouvoir approvisionner les garnisons lagides installées dès alors, on a vu le Calandros, dans plusieurs cités des Cyclades, unies au surplus en une confédération bien attestée, Tokoinon to Nesioton, qui justement se trouve alors sous le protectorat des Ptolémées. Au crédit de Callias est encore porté un bienfait en deux volets, qui a un lien direct avec la politique du second Ptolémée sur le plan international. À partir de la ligne 55, en effet, encadré en bleu ici, le décret fait mention d'une nouvelle fête, mais qui était déjà certainement bien connue quand, en 270 seulement, il faut le rappeler, Callias fut honoré, ce sont les Ptolémaïa, Ptolémaïa, les deux graphies existent, instituées par Ptolémée Philadelphe, en l'honneur de son père défunt, donc à ce moment-là, et divinisé d'une certaine façon. Le roi célébrait alors, nous dit l'inscription, proton epoiei, il célébrait les Ptolémaïa pour la première fois. Il célébrait le sacrifice, donc l'acte essentiel de toute fête, et également les concours. Proton, pour la première fois. Cette fête appelée à devenir grandiose, d'un luxe quelque peu tapageur, pour ce qui est en tout cas de la fameuse procession, la Pompée, à quelle date fut-elle créée? Je ne veux pas entrer ici dans le détail d'un débat assez complexe, mais signaler tout de même le dilemme, qui à mon avis peut être résolu, qui s'est posé, se pose encore, d'une certaine façon, de savoir si cette première célébration eut lieu aussitôt après la mort de Ptolémée I, donc 282, on aurait fait ça immédiatement, ou seulement 4 ans plus tard, en 279-8, date qui était déjà alors avant le décret accepté, puisque ce concours, considéré comme sacré et stéphanite, méritant une couronne pour les concurrents, reconnu donc par la communauté hellénique, était aussi de rythme pentétérique, c'est-à-dire selon notre façon de compter, tout avait lieu tous les 4 ans. La date haute, 282, donc aussitôt après la mort de Ptolémée, a été proposée avec conviction par un jeune chercheur américain, Nerwinski, dans une dissertation de 1981, et cette thèse a ses défenseurs, au premier rang desquels se trouve Habich lui-même, qui pourtant avait adopté d'emblée d'abord la date basse de 279-8, proposée et défendue par l'éditeur du décret de Callias. Personnellement, je juge infiniment plus probable, et ne suis pas le seul à être de l'avis du premier éditeur sur ce point, approuvé également par mon collègue, cher ami Philippe Gauthier, que 279-8, datation traditionnelle, est la bonne solution. Car une fête de cette ampleur, avec tout le va-et-vient d'ambassade que suppose son annonce et son acceptation, dut exiger plusieurs années de préparatifs avant de pouvoir être célébré. Le roi Ptolémée, ne pouvant prendre le risque d'un demi-échec, hein, puisque la cérémonie était avant tout une vaste entreprise de propagande. De fait, on peut présumer que presque toutes les cités et confédérations, on le sait par exemple pour la confédération des Nésiotes, évidemment, puisqu'elle était sous patronage ptolémaïque, tous les États tinrent d'une certaine façon à se faire représenter par un personnage, un compatriote plus ou moins illustre. Dans le cas d'Athènes, le choix d'un homme comme Callias pour remplir cette charge chef de la délégation sacrée, Arché ou Archithéoros, était pleinement justifié, évidemment par toute son activité antérieure et aussi par sa fortune, puisque Callias eut la délicatesse de refuser l'importante indemnité de voyage que lui offrait sa cité, 50 mines d'argent, presque un talent énorme. Et le voyage, il y avait des frais de séjour considérables, sans parler des frais de sacrifice. Cette représentation marqua sans doute le sommet de sa carrière. En même temps, peut-être que l'apogée de la civilisation hellénistique, de la haute époque hellénistique, dans cette évidemment capitale qui était sur le point vraiment de devenir la cité phare, c'est le cas de le dire, avec Pharos, la presqu'île, le fameux phare qui était en train de construire peut-être Sostratos de Cnide, l'envoyé, hein, ce phare que vous savez, on a redécouvert en morceaux et qu'on s'applique à reconstituer. On peut dire que ce rendez-vous politico-mondain que fut la première célébration des Ptolémaïa, Callias dut rencontrer un nombre élevé de célébrités venant des cités les plus diverses. Et j'ai fait naguère l'hypothèse que c'est précisément à cette occasion que le philosophe d'État en même temps, Ménédème d'Érétrie, qui était cité toute proche d'Athènes, fit à l'âge de 60 ans environ, il était un petit peu plus âgé que Callias, le séjour mémorable auprès de Ptolémée, qu'attestent par ailleurs divers textes littéraires. Mais la question des Ptolémaïa d'Alexandrie est liée à un autre problème chronologique majeur qui nous ramène, pour finir, à la situation d'Athènes en ces années-là. En effet, Callias ne se contenta pas de mener l'ambassade sacrée, la théorie, théoria, avec toute la dignité, la générosité qu'on attendait de lui. Il profita de cette occasion pour s'entretenir personnellement avec le roi. On voit qu'il a des contacts extraordinaires. Il a une entrevue et ensuite, il est dit, ligne 66, il est dit que « dialecteis to basilei », il dialogue avec, il a un contact direct avec lui, il s'entretient des affaires athéniennes. C'est que le peuple d'Athènes, dit le décret, était alors, toté, alors. Vous voyez que le mot, j'ai perdu, mais il me semble qu'il y est. Oui, toté, ici, sans restitution, qu'il était alors sur le point, mélontos, de célébrer l'une de ses fêtes les plus importantes, en fait la plus importante, celle d'Athéna Archegetis, te Archegetite. Athénie, les Panathénées, le mot y est, en toutes lettres. Et cela, pour la première fois, s'il faut restituer Proton, et non pas comme on l'a tenté ici, j'y reviendrai dans un instant, l'adverbe Triton, pour la troisième fois, ce qui évidemment pourrait changer passablement les choses. Et pourquoi Proton ou Triton ? Depuis que la ville avait été récupérée, autrement dit libérée. On est toujours question astu, en bois, il est toujours question du verbe, avec le verbe komizo, afou, depuis que la ville avait été récupérée, c'est-à-dire donc libérée. On voit le problème. S'il s'agit de la première célébration après 287, la libération, des grandes panéthénées, une fête pentétérique elle aussi, tombant normalement tous les 4 ans, 286, 282, 278, 264, 214, etc. Ce rythme est connu. Est-il concevable de faire descendre l'événement jusqu'à cette dernière date, donc 18, comme l'impose ou l'imposerait la date, la datation en 279-8 des premières Ptolémaïa, puisqu'il y a un rapport qui semble incontestable entre les deux choses. C'est à l'occasion des Ptolémaïens que Callias s'entretient, le fameux dialogos, de ce qui va arriver, Mélone, dans sa propre ville d'Athènes pour les Panathénée. Le lien est évident. Un tel retard depuis 287 pour la célébration de la fête, ça n'est pas une chose très facile à admettre pour un esprit moderne, puisque cela suppose que les Athéniens laissèrent passer en fait deux occasions magnifiques en 286 et en 282, d'honorer dignement leur grande dette nationale pour lui exprimer, c'était la moindre des choses, leur reconnaissance d'être quand même libérés ou partiellement libérés. Alors, n'est-ce pas faire la part justement trop belle à leur manque de ressources, dans tous les sens du terme ? Certes, on pourrait se tirer d'affaire, et on a essayé de se tirer d'affaire, en restituant, comme vous le voyez justement dans cette édition du décret de Callias, on restitue non pas Proton, mais Triton pour la première, pour la troisième fois. Donc, en 278, on en serait à la troisième célébration, ce qui signifie qu'il y en aurait eu une Il y en aurait une en 286, une en 282 et la troisième en 278. Cette solution ne saurait être totalement écartée, même si elle se heurte à une réelle difficulté, à mon avis. Car ce que Callias parvint à obtenir du roi Ptolémée, en l'occurrence, lors du dialogos avec lui, ce sont des hoplas. Ce sont des hoplas, c'est-à-dire non pas des armes ici, mais per optonoplone, mais disons un équipement, des gréements de navires dont on avait besoin pour le peplos, c'est-à-dire en fait pour le transport du peplos, ce fameux vêtement sacré offert tous les quatre ans à Athéna. Or, déjà en 298, on le voit à travers le décret pour Philippides, il avait fallu négocier avec Lysimaque au sujet de la kéraïa, c'est-à-dire une espèce d'élément horizontal, une vergue, et avec le mât, toujours pour les Panathénaïa. Alors, justement, comment expliquer si la fête avait pu réellement avoir déjà eu lieu par deux fois depuis 287, comment expliquer qu'on ait eu subitement besoin, encore en 279, lors de l'entretien, d'un nouvel équipement sans qu'il y ait eu dans l'intervalle un événement grave, à la différence de ce qui s'était précisément produit avec les deux sièges de 294 et de 287, où beaucoup de choses avaient brûlé, avaient disparu. Et ne serait-ce pas donner une importance excessive au tournant de 287 que d'en faire en quelque sorte le point de départ d'une ère nouvelle, à partir duquel chaque édition des Panathénées serait numérotée. Je crois donc qu'il convient de s'en tenir à Proton, qui est a priori épigraphiquement plus vraisemblable. Reste alors à trouver, ce sera l'objet de notre conclusion, la cause réelle d'un si long retard dans le retour à la normale, avant que la cité ne puisse reprendre l'ensemble de ses activités traditionnelles sur le plan politique et, on le voit aussi, religieux. D'ailleurs, les deux ne font à peu près qu'un. Que la cause de l'interruption ait été de nature purement économique semble improbable et pour tout dire anachronique. Certes, pendant des années, on l'a vu, la situation financière des Athéniens est restée très médiocre. En 282 encore, ils avaient le plus urgent besoin d'être secourus, d'où la requête, pas très glorieuse, peut-être auprès de Ptolémée. Mais le manque de moyens aurait-il pu à lui seul suffire à détourner les autorités athéniennes de célébrer le culte d'Athéna selon le calendrier traditionnel et les normes légales? N'y aurait-il pas eu là un acte d'impiété, en fait, caractérisé, une asébeia notoire de la part de ce peuple le plus pieux du monde comme dit Pausanias et ou les actes des apôtres. L'obstacle, puisqu'il y a eu longtemps, apparemment, obstacle, devait donc être d'un autre ordre, et précisément politico-religieux. Dans le décret, il est dit que le culte s'adressait à Athéna Archegetis, vous l'avez peut-être noté. L'épiclèse est fort rare, et en lieu et place de Polias, la déesse tutélaire de la cité. Il est intéressant d'en avoir un autre exemple de cette épiclèse, Athéna Te Archegetis, un décret de la fin des années 270, donc très, très proche, où il est dit que cette Archegetis, elle est Tes Poléos, elle est la fondatrice, en quelque sorte, de la cité. Et je crois qu'on tient là l'explication, étrangement méconnue jusqu'ici, du problème qui s'est posé aux historiens d'Athènes depuis la publication du décret de Callias. Si l'on n'a pas célébré la grande fête de cette déesse pendant près de 10 ans, si l'on a dû y renoncer deux fois de suite, en 286 et en 282, alors qu'on pouvait, sans difficulté apparente, organiser les autres concours, on a quelques indices, c'est que tout simplement, la cité athénienne, avant 278, la cité athénienne, au sens strict du terme, dans son intégrité, cette cité n'existe pas vraiment. Dans les années 280, il y a une ville, Astu, un morceau plus ou moins étendu de territoire, mais l'unité politique n'est pas rétablie. Comment pourrait-on honorer, dans ces conditions, la divinité fondatrice et garante de la polis, Archegetis Tes Poléos? Mais on ne peut le faire, apparemment, pour la première fois, Proton, en 278. C'est donc qu'il s'est produit quelque chose d'essentiel dans l'intervalle. De fait, tous les grands décrets des années 280 font mention, on l'a vu, des efforts consentis par la collectivité pour récupérer le Pirée et les Frouria du territoire. Les rois amis et alliés sont sollicités, on l'a vu, dans ce but. Et il est certain que les Athéniens, par les armes ou par la négociation, obtinrent des résultats. On a le décret pour Philippides, il est question du Pirée en 283. On sait en tout cas qu'ils purent remettre la main sur la forteresse et le sanctuaire d'Éleusis. Il y en a une allusion assez claire dans le document pour... dans le document pour Démocarès, c'est à qui on faisait le mérite d'avoir réussi à récupérer, toujours ce verbe comizo, comizomai, Éleusina. Mais il se peut que cette récupération ait eu lieu un peu plus tard qu'on ne l'a admis. On avait effectivement tiré du décret pour Philippides qui fait le premier un concours en l'honneur de Déméter et de Corée, que à ce moment-là, en 284-3, la chose était réalisée. Le spécialiste des inscriptions de Déleusis, Kevin Clinton, a montré qu'en fait, l'institution de cette fête nouvelle, à cette date, n'était pas une preuve de la récupération d'Éleusis, puisqu'il existait à Athènes même un sanctuaire, un Éleusinion, une succursale, qui a peut-être été justement le lieu de célébration de cette fête. Mais de toute façon, on peut dire que la fin des années 280, pour la mainmise sur Éleusis, découle du fait que Démocarès, peu après, mena une députation, une ambassade, auprès d'un très éphémère roi de Macédoine, Antipatros, en 280-279. Il y a dans le document un lien étroit entre les deux. Donc, on sait aussi qu'après 280, mais peut-être seulement dans la fin des années 270, les Athéniens procèdent à un redécoupage de leur forteresse avec une stratégie d'Éleusis avec les forteresses, mais on y reviendra l'année prochaine. La question du Pirée, alors, là, pour finir vraiment. La question du Pirée a été, on peut dire, la bouteille à l'encre de l'histoire d'Athènes à l'époque hellénistique, puisqu'il y a eu des accords profonds, fondamentaux sur ce point entre les érudits depuis un siècle. Les uns, dont Abish peut être regardé comme le chef de file depuis ses Untersuchungen de 1979, défendent encore avec conviction l'idée qu'il n'y eut aucune libération du Pirée dans ces années-là. Le port, la forteresse en particulier de Mounichi, qui contrôle tout ici, étant, selon eux, demeuré de manière continue sous contrôle macédonien jusqu'à l'année 229, quand les Athéniens, retombés dans l'intervalle sous la domination du roi Antigone, parvinrent enfin à se débarrasser de cette longue tutelle, en rachetant à prix d'argent leur liberté. Mais aujourd'hui, le nombre des chercheurs qui conteste cette vision pessimiste, en quelque sorte, va en s'accroissant. Et l'idée paraît s'imposer peu à peu, depuis une dizaine d'années, qu'une reprise du Pirée par Athènes, par les Athéniens, eut bel et bien lieu aux alentours de 280. Dès 1979, Dans un article de la revue des études grecques, on peut dire que Philippe Gautier avait ouvert en quelque sorte les feux en montrant que tout le parti qu'on pouvait tirer d'un décret parfaitement conservé, honorant un archonte qui sortait de charge en 282 ans, l'archonte Eutyos, avec une précision très remarquable où on disait que, outre les honneurs qu'il avait obtenus, il pourrait attendre mieux, si on l'en jugeait digne, lorsque le Pirée, autan o Pireus, kai toastu, et la ville serait ento auto. Le problème, c'est qu'il y a eu méprise sur le sens, non pas de Gautier, mais de l'éditeur du décret, l'édition la plus courante, l'italien, l'excellent épigraphiste italien Luigi Moretti, qui a cru que ça signifiait quand le Pirée et la cité seraient au pouvoir du peuple, ce qui avait une très fâcheuse implication, puisque ça sous-entendait que même la ville d'Athènes, à ce moment-là, était sous la tutelle des Macédoniens. Or, le sens en réalité correct, évident et tout différent, il a été établi par Gautier, par d'autres, tout le monde l'accepte aujourd'hui, c'est que eisto auto, ou plutôt ento auto, mais c'est la même chose, signifie on en toute, lorsque la ville et le Pirée seront réunis, on en toute, c'est-à-dire qu'on aura rétabli l'unité de la cité qui n'existait plus, qui était brisée depuis 287. Donc, en 281, la date de ce décret, cette récupération était en vue, espérée, plus qu'espérée, était vraiment un projet très concret. Et de fait, dans les années qui suivent, il n'est plus question une seule fois de cette attente de récupération. Cette opinion de récupération de 180 paraît se heurter peut-être finalement aux objections que faisait Abicht et qui ont été reprises encore dans sa synthèse plus tardive, à savoir qu'il existerait des indices sérieux montrant que durant les années 270, le Pirée restait toujours au pouvoir des Macédoniens. Mais en fait, ces indices peuvent être écartés pratiquement tous l'un après l'autre, je n'insiste pas là-dessus ici. Et il faut s'en tenir au texte et au témoignage de Pausanias, livre 1, 26, que Abicht a voulu en fait écarter parce qu'il est question, un peu plus clairement, d'une récupération du Pirée par Olympiodore, l'homme qui a libéré Athènes en chassant la garnison du Mouséon, vous voyez, il est dit de façon la plus claire possible, Pirée et Monigi, mais Abicht, constatant que ce témoignage était contraire à sa thèse, et qu'il avait des raisons tout à fait honnêtes de défendre, a voulu donner au verbe anasosameno, au participe, anasozain, anasozetsai, un sens qu'il ne peut pas avoir. Tous les hellénistes aujourd'hui sont d'accord là-dessus. Anasozain ne peut jamais signifier, ne peut pas signifier conserver le Pirée, le conserver contre des attaques extérieures qui auraient eu lieu bien plus tôt dans l'hypothèse de Abicht. Anasozain signifie toujours recouvrer, sauver ce qui était perdu, hein, non pas diasozain, qui a le sens de sauver ce qui. Maintenir le salut de quelque chose qui existe. Donc, tout semble indiquer qu'il y a bel et bien eu, en 281, ou 280, disons, voire 279, une mainmise athénienne sur le Pirée et que la cité a été reconstituée. Cette libération, effectivement, permet de rendre compte de deux choses. D'abord, chose tout de même assez remarquable, sur laquelle on n'insiste pas assez, c'est que en 279, les Athéniens, pour la première fois, osent s'aventurer hors de leur territoire pour lutter contre les Gaulois, justement, hein, dans une entreprise qui a lieu ici, près des Thermopyles. C'est la première fois depuis 287 qu'ils sortent de leurs frontières. L'autre chose que j'ai déjà dite, mais qu'il faut redire, puisque personne ne l'avait dit jusqu'ici, cette récupération explique pourquoi c'est en 278 seulement qu'Athènes put honorer sa déesse tutélaire, Athéna Archegetis Thespoléos, lors des grandes Panathénées, la cité alors étant restituée, reconstituée, toutes ses parties se rejoignant enfin eisto auto, dans la même unité politique. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.